Alors, interview avec Boulet autour de son univers. Donc, Boulet, bonjour. Est-ce que tu peux tout simplement nous parler de toi, de ton processus de création, de l'univers que tu as développé d'année en année, que ce soit vis-à-vis de, je dirais, de ton blog, puis ensuite de la création et la mise en scène que tu continues à travers tes notes, donc de blogs qui sont édités par Delcourt, et de tout le processus qu'il y a autour, j'allais dire, le fait que tu expérimentes beaucoup, que tu vas beaucoup, pour ainsi dire, sur le terrain, le fait qu'au bout d'un moment, on arrive à se poser la question en regardant, en suivant tes aventures, pour ainsi dire, sur le net, si c'est toi-même qui te mets en scène, ou si, comme certains auteurs, tu as créé, pour ainsi dire, une icône, un personnage qui recèle quelques éléments de toi, mais dans lequel, pour ainsi dire, n'importe quel lecteur pourrait se retrouver.
Bien sûr, oui, c'est l'idée. L'idée, c'est que tout le monde puisse se reconnaître dedans, enfin, j'espère, le plus de gens possible. Au départ, le processus est venu du fait qu'à la base, c'était de l'autobiographie. La première année était consacrée à ma vie, ça s'adressait aux copains. Il y avait 500 lecteurs sur le site. Et c'était simplement mes récits de festival et de vie de tous les jours. Sorti de là, après, j'ai eu de plus en plus de gens qui sont venus sur le site et j'ai voulu m'éloigner de l'autobiographie pour aller vers quelque chose de plus universel. Donc j'ai commencé à faire du billet d'humeur, un peu de la chronique. Comme les lecteurs étaient habitués à mon personnage que j'avais présenté comme étant moi, je me suis conservé comme personnage, mais je me suis de plus en plus éloigné de ma propre personnalité. C'est-à-dire que, au départ, le personnage était déjà une version un peu fantasmée de moi, une version qui se voulait drôle de ce qui m'arrivait dans la vraie vie, alors que au quotidien, je ne suis pas plus drôle que n'importe qui. Et ensuite, je me suis encore plus éloigné de ce personnage qui était déjà une caricature de moi-même. La comparaison que je fais souvent pour moi sur ce format, c'est un peu comme un comédien ferait de la stand-up comédie. Vous voyez ces comédiens qui montent sur scène et qui disent « Hier soir, j'étais à une soirée et voilà ce qui s'est passé. » Blablabla. On sait que c'est pas vrai, on sait que c'est écrit, on sait qu'effectivement, l'acteur qui dit « je » et qui est sur scène, il met de sa propre personnalité, mais en même temps, c'est du billet d'humeur, c'est du sketch, et pour moi, voilà. Note, c'est devenu du sketch. C'est-à-dire, j'essaie souvent d'établir des petits parallèles entre un sujet qui me tient à cœur et quelque chose qui va s'être passé dans ma vie, et je vais comme ça profiter du prétexte autobiographique pour aller vers quelque chose de plus général.
D'accord. Alors, tu peux justement nous parler un peu, qu'est-ce qui t'a amené au dessin, qu'est-ce qui t'a amené justement à cette multiplication de thèmes, que ça soit un regard, je dirais, un peu tendre, nostalgique, et où tu te moques un peu de toi-même en regardant dans le passé, où tu abordes justement énormément de thématiques, que ça soit un peu de la science-fiction ou autre, et où tu expérimentes aussi énormément au niveau graphisme et au niveau histoire. J'ai le souvenir à un moment d'une histoire qui était faite, pour ainsi dire, en une immense vignette strip qui défilait tout au long, et où on avait justement une histoire à chute, c'est le cas de le dire, avec un début, un milieu, une fin, et à chaque fois on se dit waouh. C'est comment ça vient finalement tout ce processus
là encore, c'est né du format internet, c'est né du format blog. J'ai commencé par faire du fond de tiroir. Au départ, c'était vraiment des petits dessins dans des carnets que je faisais au retour de festival dans un train. Et petit à petit, je me suis mis à faire ça un peu plus consciencieusement, un peu plus sérieusement, sachant que je n'avais pas d'obligation d'harmoniser le tout. Alors, j'avais des copains qui faisaient des dessins à l'aquarelle, j'avais très envie d'essayer l'aquarelle. J'ai ressorti ma vieille boîte d'aquarelle et j'ai commencé à faire des petites BD à l'aquarelle. Ça a été un premier déclic, parce qu'avant, j'avais toujours cette impression qu'il fallait dessiner bien en noir sur fond blanc, avec de la colorisation qui ne dépasse pas des traits pour que les lecteurs aiment bien. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je faisais le cracra à l'aquarelle, quand je griffonnais vite fait, que je mettais trois flaques d'aquarelle et que je scannais ça, non seulement j'y passais vraiment deux fois moins de temps, mais en plus, les lecteurs préféraient largement ça. Et ça a été un moment où je me suis dit... La quantité de travail ne doit pas, c'est pas ce qui fait le tout. Ce qui fait, ce ce qui va faire la réaction du public, c'est l'efficacité, non pas la quantité de travail qu'on met derrière. Et ce qui est logique, hein, quand on y réfléchit, si je faisais mes BD en les gravant sur de la pierre et en les imprimant sur du papier chinois, je ne sais pas, elles ne seraient pas mieux pour autant. C'est simplement qu'elles seraient sur un format différent. Donc, une fois qu'on a trouvé son idée, il faut aller au plus efficace. Donc, je me suis amusé à expérimenter beaucoup de choses, comme ça, à droite, à gauche. Et il y a quelques... L'expérimentation est une part du blog, mais elle est quand même assez réduite, finalement, puisque je reste quand même énormément, si on feuillette l'album, dans le noir et blanc avec un petit peu de orange. Quelquefois, quand j'ai plus de courage ou plus de temps, il y a une note ou deux qui est coloriée, soit à l'aquarelle, soit à la peinture numérique. Mais ça reste quand même assez marginal. Et parfois, il va y avoir une occasion qui va faire que je vais avoir besoin d'une technique particulière. Par exemple, il y a eu quelques notes où tout reposait sur la description de la lumière. Il y avait le personnage qui se réveillait chez lui et qui errait dans son appartement sans allumer les lumières. Donc c'était une page très très noire avec juste quelques touches de lumière qui était le frigo qui s'ouvrait, qui était les petites statuettes phosphorescentes au-dessus d'une armoire, qui était le radio réveil qui éclairait la pièce en rouge, et au petit matin le soleil qui passait à travers les persiennes métalliques et faisait une sorte de réseau de petits points lumineux sur le mur. C'est que ce genre de truc qui était pour moi vraiment des petites taches de lumière sur fond noir, donc j'avais besoin de l'ordinateur pour ça. Donc j'ai fait de la peinture numérique, par exemple, à cette occasion. Au lieu d'utiliser du papier et un crayon, je suis parti d'une feuille noire qui était l'ordinateur, et j'ai fait venir la lumière en superposition par-dessus ça. Donc voilà, là, c'était un de ces exemples où le thème, l'idée, conditionne complètement la technique. Ce qu'on peut se permettre dans une BD comme ça, où il n'y a pas d'obligation de cohérence sur l'ensemble de l'album, mais que je n'avais jamais pu faire dans un album de 46 pages couleurs, franco-belge. Quand je faisais de la BD jeunesse, si je voulais changer d'ambiance, j'étais toujours tributaire de la technique que j'employais. Je ne pouvais pas tout à coup prendre deux pages pour faire quelque chose de plus nostalgique à l'aquarelle, ou faire quelque chose de plus tordu en papier découpé, ou je ne sais pas. Sur le blog, j'ai le droit. Sur le blog, je peux changer de technique comme je veux. L'histoire de la note en pixels, en fait, c'était aussi une contrainte technique, c'est que je voulais une note qui soit très très longue et qui se déroule, et la contrainte technique était simplement, il ne faut pas qu'elle pèse trop lourd, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient sur mon site, et que si je faisais un méga par dessin, bah, je faisais exploser Internet. Donc j'ai fait au plus léger, c'est-à-dire j'ai fait des petits formats PNG, pour ceux qui connaissent l'ordinateur, en très peu de couleurs à chaque fois, en séparant vraiment les images avec plus ou moins de couleurs. Chaque image devait peser moins de 100K, c'est-à-dire un dixième de méga. Et il y avait, je ne sais plus combien il y avait de pages au total, c'était plus de 40. Mais enfin bref, en tout cas je me souviens du poids global de la note qui était d'environ 6 mégas. Et c'était vraiment le maximum. Normalement cette note devait être beaucoup plus longue encore. Je devais vraiment la continuer sur plus longtemps, elle devait être deux fois plus longue. Et en fait, j'ai pas pu, parce que simplement, mon programmeur m'a dit, bah là, t'es à 6 mégas, tu vas déjà faire sauter les serveurs, ce qui s'est passé trois fois dans la journée où j'ai posté la note. Mais donc voilà, là, pour avoir ce poids-là, j'ai dû avoir recours au pixel art. Et souvent, c'est la technique qui guide le choix, enfin, c'est le thème qui guide le choix de la technique.
D'accord. Alors, tu t'es amusé aussi de temps à autre à confronter par moments des situations, des chocs entre le réel et l'imaginaire. Mm-hmm. J'ai le souvenir de trois notes, pour ainsi dire. T'en as une où l'ONU intervient dans un monde d'heroic fantasy, ouais, pour leur apporter, pour ainsi dire, la paix et la liberté. Donc, une petite parabole à l'intervention américaine à l'époque en Irak et en Afghanistan. T'en as une, là t'es en train de tenir dans tes mains Formica Punk, mm-hmm, où tu t'amusais justement à pasticher l'esprit du steampunk en le resituant dans les années 70-80, en montrant très très bien que finalement le principal avantage de ce courant, c'était imaginer un futur qui serait arrivé beaucoup plus tôt, et en montrant que dans certains cas ça aurait été à la fois complètement décalé et très très rigolo. D'où ça vient justement, d'où viennent ces idées de confrontation? Et après, je passerai justement à la troisième qui m'intéresse plus particulièrement.
Ces idées de confrontation, elles viennent de, tout simplement, c'est difficile à dire, j'ai une imagination très visuelle, je pense. Donc quand je lis des livres, ou quand j'ai une idée comme ça, je l'imagine toujours en image. Et effectivement, je ne sais plus comment était venue l'idée du Formica Punk, qui est cette uchronie effectivement basée sur une technologie des années 80 transposée à aujourd'hui. Je crois que c'était simplement, j'avais dû voir des objets un peu néo-rétro, ces espèces de téléphones qui ressemblent aux vieux téléphones orange à gros cadran, mais qui sont des téléphones numériques et qui fleurissent un peu partout. Maintenant, il y a des gens qui vendent très cher des tables en Formica. Formica, c'était moche dans les années 80, ça l'est toujours aujourd'hui, mais maintenant, ça vaut une fortune. Enfin, ça coûte une fortune, ça ne vaut pas une fortune. Et voilà, et je m'étais amusé de ce retour en arrière perpétuel qui fait qu'on retombe à intervalles réguliers sur les mêmes couleurs, sur les mêmes formes, sur une envie de quelque chose de différent et en même temps qu'on connaît déjà. Je pense que toutes les générations ont connu cette nostalgie. Même c'est un truc qui m'a toujours frappé, par exemple, quand vous écoutez une chanson de Aznavour, et une chanson, je crois que c'est Aznavour, qui a chanté une chanson qui s'appelle Mes universités, où en gros il raconte qu'il avait 20 ans et que c'était le bon temps et que c'était génial, sauf que ces 20 ans, ça se situait pendant la guerre. Donc il parle des Allemands, il parle des privations, il parle de la misère, mais il dit ah, c'était le bon temps. Et je pense qu'on est tous comme ça, c'est-à-dire que le bon temps, c'était quand on était jeune, en fait, tout simplement. Et qu'on a tous cette espèce de nostalgie, et plus on vieillit, plus on se dit « Ah, c'était bien à l'époque ». Et le Formica Punk, c'était une vision actuelle de cette nostalgie. J'avais déjà beaucoup abordé le thème, en fait, dans le tome 3 des notes, où le personnage revenait dans le temps, façon quartier lointain de
Taniguchi. Oui.
Et où il se retrouvait dans les années 80. Et au début, il était tout content parce qu'il avait retrouvé son apparence d'enfant et puis que c'était génial de retrouver ses clubs des 5 et Colombo à la télé, etc. Et que tout le monde était jeune. Et puis que très vite, il se rendait compte que Internet lui manquait, que la culture des années 2000 lui manquait, que ses amis lui manquaient, que la liberté qu'il avait en tant qu'adulte lui manquait beaucoup, etc. Et le Formica Punk, que c'était ça, c'était je voulais mettre en image le fait que, oui, c'était cool les années 80, mais là, on voit le personnage, par exemple, qui doit enregistrer une page de BD qui est en vert et blanc parce qu'il a un écran d'Amiga, et puis il l'enregistre sur 80 cassettes qu'il met dans un carton pour la porter à l'éditeur. Il fait des téléchargements au Minitel avec des cassettes VHS, et ça prend des heures et des heures. Et ça
coûte ou t'as le futur. Moi, je me souviens aussi, dans le métro, à un moment, t'as droit à une publicité, 3 heures en New York pour 1999 francs. En prenant le Concorde, on se dit « Ah bah oui, le futur, c'est maintenant, mais mon Dieu, il fallait y mettre le pognon quand même. Hein. »
Mais je crois qu'en fait, le Concorde avait été... Je crois que cette note tombait à peu près au moment où il y avait eu le dernier vol du Concorde, où on avait abandonné pour de bon le Concorde, qui était tellement un symbole de l'avenir quand j'étais petit. Le Concorde, c'était du genre « Maintenant, on a le Concorde, la prochaine étape, c'est les fusées. » Et là, tout à coup, je voyais mourir ce truc lié à mon enfance, et je pense que c'était un moyen de revivre les années 80. Et voilà, et moi, ce qui m'amuse beaucoup, j'avais une amie qui avait décrit mon univers en disant qu'en fait, comment elle avait formulé ça, que mon univers, c'était de la fantaisie pragmatique. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans un monde imaginaire et fantasmé, mais que j'essaye d'y emmener aussi à chaque fois toutes les contraintes et toutes les petites misères du quotidien qu'on a. C'est-à-dire que c'est la première chose. J'avais bossé sur une série de science-fiction avec un copain, avec Renaud. La série s'appelait Vomox, c'était il y a quelques années, là déjà, c'était il y a 10 ans. Et la première chose que j'avais demandé à Renaud, c'est que je ne voulais pas un avenir propre. Je voulais un avenir où il y avait des ruelles avec des marchands de kebab et où il y avait et que si on faisait une pile de poubelles, dans les poubelles, c'était pas des sacs en plastique bleu, mais c'était des écrans plats, c'était des pièces électroniques ou des objets qui, pour nous paraîtraient hyper futuristes. Et en fait, voilà, souvent, j'essaye de transposer mon quotidien avec tout ce qu'il implique de loose, de petites misères et de trucs, mais d'essayer de garder cet esprit-là dans un monde imaginaire.
D'accord. Alors, dans Formica Punk, mais également dans le tome 6 et autres, tu t'es beaucoup amusé avec le concept de monde parallèle et d'uchronie. D'où ça t'est venu? Parce que Pour ma part, ça va faire... j'en collectionne depuis 1999. Tu as eu un essai d'Éric Henriet qui est sorti sur la question « L'histoire revisitée au panorama de l'Uchronisme sous toutes ses formes ». Et pour le coup, j'ai été comme pas mal de lecteurs. J'ai découvert qu'il y avait un genre qui existait et que certains des romans, voire même des films ou autres que j'avais vus, faisaient partie de ce genre-là. Et du coup, j'allais dire, en arrivant dans ton bouquin, ça m'a beaucoup amusé. Parce qu'actuellement, on est en train d'écrire avec une amie un guide de l'Uchronie pour faire découvrir justement ça. Il y a 10 ans, l'Uchronie, pour ainsi dire, j'ai ma petite phrase type, il y a 10 ans, utiliser le mot Uchronie auprès d'un libraire ou autre, c'était limite si celui-ci n'allait pas vous demander si c'était un quelconque polar suédois qui se situerait dans un pays ou combien exotique. Comment ça t'est venu justement, cette envie de t'amuser avec ça? Parce que le mot, maintenant, est devenu plutôt, je dirais pas courant, mais on le reconnaît.
Je l'ai tout simplement expliqué dans le déroulé de l'album. Ici, c'est que chaque livre, chaque histoire qu'on écrit est une forme d'uchronie, en fait, pour moi. C'est-à-dire qu'on crée un petit univers et on le fait vivre pendant un temps. Et en fait, je me suis rendu compte... encore une fois, il faut que je parle du processus de comment j'écris les livres. Le site, j'ai expliqué que je fonctionnais comme ça à l'envi, complètement libre. Les livres, ils font en gros 150 pages de contenu du web, plus environ 45 pages d'inédits. Les 45 pages d'inédits, c'est quelque chose que j'ai réclamé à mon éditeur. Ne pas juste faire des compilations qui soient jetées comme ça en pâture au public sans qu'il y ait aucun guide pour comprendre de quoi il s'agit. Ce que je fais, c'est que je relis les 150 pages que j'ai faites et je vais essayer de voir quel est le thème qui se dégage. Sur le tome 1, c'était facile, c'est la fabrication de l'album lui-même. Le tome 2 était un tome qui était consacré beaucoup au voyage et au festival. Donc sur le tome 2, j'avais fait tout le fil rouge, comme ça, toute la partie inédite, je l'avais faite sur un festival imaginaire. Le tome 3 parlait beaucoup d'enfance et de retour en arrière des années 80, etc. Donc je l'avais fait justement sur ce mode quartier lointain. Le tome 4 parlait du rêve. Le tome 5, il y avait eu beaucoup d'histoires qui parlaient de fin du monde, mais c'est un peu une coïncidence. J'avais raconté des histoires comme ça avec des trucs un peu post-apocalyptiques. Donc en faisant ce fil rouge, ça résonnait bien avec le contenu du livre. Et là, en fait, dans ce livre en question, j'avais fait plusieurs récits comme ça qui collaient pas mal avec ce thème de l'Uchronie. Il y avait quelques récits encore post-apocalyptiques. Je m'étais amusé, ça c'était simplement pour le plaisir visuel de le faire, à faire une petite histoire steampunk, pour le plaisir de dessiner du cuivre et des lunettes d'aviateur. L'histoire steampunk m'avait un peu inspiré aussi cette histoire de Formica Punk, en me disant, voilà encore un truc différent. Et dedans, il devait y avoir aussi une page qui parlait du « et si ». C'est-à-dire le principe du « et si j'avais fait ça au lieu de faire ça ?»
Avec la notion d'embranchement et de choix.
Et moi, je lis toujours beaucoup de bouquins de vulgarisation et de science. Et je suis tombé sur un livre dont je ne me souviens même plus des auteurs, mais qui s'appelait « Multivers et univers parallèles ».
La théorie des cordes, non ?
Non, c'est un petit bouquin qui parle justement des univers parallèles et qui est écrit par des chercheurs du CNRS, si je me souviens bien, ou en tout cas qui est aux éditions CNRS. Et le bouquin était extrêmement théorique, hein, il n'y avait absolument aucune équation, c'était juste des gens qui disaient peut-être que, mais ça restait hyper marrant, quoi. Et il faisait un peu le point sur toutes ces théories d'univers parallèles, comme tu dis, en parlant un peu de la théorie des cordes, etc. Mais voilà, je m'étais dit, je l'ai mon thème, il suffit de parler des univers parallèles, et ça collait avec le contenu du livre.
D'accord. Ouais, c'est marrant, le processus créatif donc finalement évolue sans cesse au fur et à mesure. Enfin, j'allais dire
l'ensemble de mon travail, et c'est pour ça que c'est difficile de parler de mon processus, c'est que l'ensemble de mon travail repose sur l'improvisation. C'est comme si tu marchais au pif et qu'on te disait par où tu vas. Tu dis pour le moment par là, mais tu sais pas pourquoi. C'est ça, c'est de l'improvisation tout le temps. Je sais absolument pas où je vais la plupart du temps.
Mais l'important, c'est de raconter une histoire.
Voilà. Le voyage est plus important que la destination, c'est comme clair. On dit.
Alors, avant de se quitter, une dernière petite question. Ça, je la pose rituellement à tous ceux que j'interview à la Japan Expo. C'est par rapport au petit souci, à la tentative de loi qui est passée pour une retraite complémentaire, sur le fait qu'on vous demande 8%, pour ainsi dire, de vos revenus et autres. Qu'est-ce que tu en as pensé et comment tu te situes, toi, par rapport à cette thématique-là ?
Moi, je me situe parmi les privilégiés. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance que pour le moment, ça se passe bien. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. J'en ai encore parlé hier sur les réseaux sociaux. Moi, j'essaye de faire un peu de l'information et de l'éducation parce que je me rends compte que quand on parle de ces problèmes, on se heurte à une hostilité du public qui est complètement aberrante. Certains s'intéressent aux problématiques et écoutent, mais j'ai déjà eu des commentaires, on entend encore les commentaires du genre vous n'êtes pas les plus malheureux et puis vous faites un métier que vous aimez, etc. Donc moi, comme je disais, je suis un des privilégiés, c'est-à-dire que cette mesure, je peux l'encaisser, je peux payer 10% de mes revenus à une caisse retraite. Et je trouve que c'est une bonne idée qu'on réforme la caisse retraite dans l'absolu. Sauf que là, ça a été fait sans aucune concertation avec le syndicat des auteurs. Les auteurs de BD sont une des professions les plus syndiquées de France, c'est-à-dire un tiers de la profession est syndiquée au SNAC, le syndicat des auteurs créateurs. Et on a appris ça du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on a une profession qui est extrêmement fragilisée. La retraite minimale à laquelle on était obligé d'adhérer, c'était de l'ordre de 200 euros par an. C'est-à-dire que ça avait ce système. Ce système faisait que ceux qui avaient les plus petits revenus pouvaient se dire bon, je laisse tomber ça et puis je vais manger à la place. Et ceux qui étaient riches pouvaient payer plus et avoir une complémentaire retraite plus intéressante. Ça laissait une sorte de choix. Et là, tout à coup, ils veulent nous faire passer au 8%. Donc, en fait, les auteurs les plus aisés qui payaient déjà de leur poche une retraite complémentaire, ils se retrouvent dans la même situation. C'est-à-dire ils vont se dire, je vais payer mes 8% et j'aurai ma retraite. Ça revient au même pour moi. Et en revanche, ceux qui sont les plus démunis, au lieu de payer 200 euros par an, ils se retrouvent à payer un mois de salaire par an. Et quand on voit les salaires, la plupart des auteurs sont en dessous de 1200 euros par an. Donc, 1200 euros par mois. Donc voilà, cette cotisation, tout à coup, ça va faire que vous gagnez 1200 euros par mois, on va vous prendre 1200 euros par an. C'est énorme, c'est gigantesque. Donc, ça fait partie d'une longue chaîne d'agacement qui survient dans notre milieu. C'est-à-dire, il y a quelques années, on parle depuis plusieurs années de la chute vertigineuse des avances sur droit. C'est-à-dire que les auteurs sont de moins en moins payés pour faire leur album. C'est-à-dire qu'avant, un premier album, quand c'était un jeune auteur qui commençait, pour faire un 46 pages couleur, on allait lui proposer 10 à 15 000 euros pour faire l'album sur 9 mois, 1 an. Maintenant, un album de 200 pages. J'ai déjà vu des jeunes auteurs arriver chez des gros éditeurs avec des propositions d'albums de 200 pages. Et le gros éditeur leur propose 5 000, 6 000 euros pour faire ça. Donc vous voyez, un boulot de 200 pages, payer 6 000 euros. Moi, mon énorme chance, c'est que je suis très rapide. Je travaille en improvisation. La plupart des auteurs font leurs albums en 9 mois, 1 an. Moi, je peux, sans trop forcer, faire un album en 6 mois parce que mon style le permet. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et je ne pense pas que tout le monde veuille que la profession entière se mette à dessiner comme moi. On a besoin d'avoir des gens qui sont des artisans plus consciencieux que je ne le suis. Et donc voilà. Donc il y a eu ça, il y a eu le problème des droits numériques, où tout à coup les éditeurs ont décidé que la BD numérique, les auteurs allaient être payés pareil, c'est-à-dire entre 8 et 12%. Sachant que, pour le coup, on se demandait bien pourquoi, puisqu'il n'y avait plus le prix de la fabrication ni le prix de la distribution à prendre en compte. Donc voilà, on s'est mangé deux bonnes grosses couleuvres. Et ensuite arrive le coup de la retraite, où ça fait 10 ans qu'on dit on est de plus en plus maltraité, notre métier se casse la gueule complètement, il y a de moins en moins de gens qui arrivent à en vivre, et les jeunes auteurs sont au bord de la misère totale. Et là, tout à coup, on nous dit, ah oui, c'est un problème, on va vous prendre 10%. enfin 8%. Donc moi, tout ce que je peux faire de mon côté, c'est de l'information. Donc c'est ce que je vais continuer à faire. Hein. C'est-à-dire, je continue à relayer autant que je peux des vidéos explicatives, des informations à ce sujet pour essayer de convaincre les moins informés. Et en espérant que ces moins informés réaliseront que, ben non, auteurs de BD, on n'est pas des joyeux enfants avec des étoiles plein les yeux qui passons notre temps à rêver et à dessiner des petits poneys. On a un boulot qui est fatigant. Moi, je suis en bouclage d'album. Un bouclage d'album, ça veut dire que je travaille facilement 12 heures par jour. Comme je dis, je suis un des chanceux qui vont vite. Donc, il faut arrêter de croire qu'on est des feignants. Quoi. Enfin, on bosse toute la journée. La part marrante du boulot, elle existe. On adore ce métier, on n'en changerait pour rien au monde. Mais on ne passe pas nos journées à rigoler. Il y a aussi une part technique qui représente 90% du boulot. C'est 90% du boulot qui est un travail de bureau. Et ça, on ne le répète jamais assez. Dessinateur de BD, c'est un travail de bureau, de putain de bureau, où on est assis des heures et des heures et des heures par jour devant un ordinateur ou une table. C'est pas un travail joyeux, peu fatigant et facile. C'est un travail difficile, fatigant, physique et surtout extrêmement prenant. Sachant que, je le rappelle, les auteurs n'ont pas de couverture chômage ni rien. C'est-à-dire que le jour où on arrête, on n'a rien. On ne peut aller voir aucun organisme en disant « j'ai perdu mon travail ». Est-ce que je peux avoir des indemnités ? Non, on n'a rien du tout. Du jour au lendemain, on n'a pas de statut d'intermittent, on n'avait pas de caisse retraite, donc ça c'était le problème aussi de cette réforme, c'est qu'il nous fallait une caisse retraite, c'est-à-dire jusque-là on n'avait pas de retraite, parce que la retraite obligatoire, elle représentait quelque chose comme 150 euros par an, c'est-à-dire on nous versait 150 euros par an au moment de la retraite, ou je ne sais plus, c'est peut-être un peu plus, mais c'était complètement aberrant, c'était 1500 euros par an, je crois, la retraite proposée de base. Donc voilà, voilà pourquoi on cotisait avant. En termes de chômage, on n'a toujours rien. En termes d'assurance maladie, c'est le bordel. Moi, j'ai passé personnellement 2 ans sans assurance maladie, simplement parce que je gagnais trop pour être à la CMU et pas assez pour être aux AGSA. Donc on a plein de situations comme ça complètement kafkaïennes. Moi, en termes de mesures, je pense que je vais suivre le mouvement qui est pour le moment, on parle de plus en plus de faire la grève des auteurs, c'est-à-dire boycotter les gros festivals. Moi, je pense que je vais bientôt commencer. Ouais. Je vais bientôt commencer à boycotter absolument même tous les festivals.
C'est ce qui se disait pour la rentrée.
Ouais. Désolé d'avoir fini sur une note pas très rigolote.
Non, mais c'est tu joues le jeu. Hein. Bon, bah, en tout cas, merci à toi. Ça me semble un peu vain de te demander comment te suivre ton actualité, voire même de demander le mot de la fin. Tu l'as trouvé magnifiquement. Donc, je te souhaite bonne continuation et je te dis à bientôt.
Merci beaucoup. Je dois filer, puis j'ai